France Inter.
Jean Mélodie Fontaine,
bonjour.
Bonjour. Tanguy Pastureau, Daniel Morin,
Bruno Solo.
La bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Pour le passeur d'histoire, bienvenue Bruno, nous allons évoquer ce qui va se passer ce soir sur France 5. C'est plus qu'une série, ce sont carrément 6 films, 6 heures, absolument passionnants, parce que c'est un mélange à la fois d'histoires que vous racontez face caméra, de jeux aussi avec des acteurs, mais de l'intelligence artificielle qui vient nous éclairer toute cette Égypte antique que vous visitez. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord un petit tour de table pour savoir quelles sont les périodes de l'histoire qui vous passionne, Julie. Est-ce qu'il y a une période, ça peut être l'Égypte, hein, mais t'es pas obligé.
Bah, je crois que non, la Grèce antique.
La Grèce antique,
ouais,
parce
bien.
Que la mythologie.
Ouais, la mythologie les grecque, mars. Et j'aimais bien comment elles étaient gaulées, les nanas, à l'époque. Les statues grecques, ça me parle, je trouve que ça ressemble un peu à mon corps, donc j'aime bien.
Ouais,
c'est des canons de beauté qui me correspondent bien, voilà.
Mélodie Fontaine.
Moi, j'adorais le Moyen-Âge, mais c'est un des trucs que tu... Non, mais tu commences par... Ouais,
t'es un peu resté habillé... voilà, c'est ça.
Non, mais tu sais, des trucs. Quand ils étaient sales, ils marchaient dans la fange et tout, là, c'est dingue, ils faisaient caca derrière les rideaux.
Ok, merci, c'est beaucoup trop.
C'est plus le 18e que le Moyen-Âge.
Oui, mais ils faisaient un peu caca aussi derrière les rideaux.
Moins qu'on ne le croit.
Comme disait le poète, de tout temps, ils ont fait ce que tu dis. Emma Beaujean.
Moi, c'est vraiment l'égyptologie. Quand j'étais petite, c'était genre, j'avais une passion pour
l'Égypte.
Ouais, pour l'Égypte, et j'avais demandé à Noël du papyrus. Voilà, bah, j'avais pas d'amis, mais voilà, c'est vraiment, ça me passionne.
Old Laugh.
Moi, le Moyen-Âge aussi, mais j'aurais peur de croiser Mélodie Fontaine derrière un rideau. Et ça me passe un peu.
Ça va tellement plus de temps à l'époque.
Ok, Daniel.
La préhistoire.
Évidemment.
Laissez
scotché d'ailleurs.
Évidemment, la préhistoire.
Totalement laissez scotché.
Moi et toi.
Forcément l'Égypte.
Mais pourquoi forcément?
Parce que j'ai vraiment grandi, mais c'est pas une blague. Hein. J'ai grandi.
Alors déjà, tu n'as pas beaucoup grandi.
Le peu que j'ai grandi, c'était en Égypte, et il y avait des hiéroglyphes à la maison, des objets, des petites pyramides, des Ramsès. Je vous jure, j'ai grandi avec ça. Pour être très clair, j'ai fui l'Égypte au moment où il fallait fuir l'Égypte, et je suis retourné me marier là-bas, et j'étais envahi d'une émotion incroyable en arrivant sur place. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vécu également, Bruno, mais est-ce que d'abord l'Égypte est le seul, là c'est pour le boulot, mais est-ce que vous avez une passion pour un moment de l'histoire?
Moi, j'ai toujours été passionné par l'histoire en général, et l'Égypte, c'est vrai, pas en particulier. Moi, c'est le 18e siècle, vraiment la période qui me fascine le plus.
Les
mais en revanche, effectivement, c'est chill. et c'est vrai que l'Égypte, je l'ai découverte au travers d'une bande dessinée, figurez-vous, de Edgar Jacobs, qui s'appelait Le Mystère de la Grande Pyramide, la deuxième aventure de Blake et Mortimer. Et j'ai découvert ça justement en étant aux toilettes chez des amis. Quand je m'ennuyais, j'allais m'isoler aux toilettes pour faire croire que j'allais aux toilettes, mais c'était pour m'isoler du monde, des adultes, de la fureur et du bruit.
Et rêver de l'Égypte.
Et là, effectivement, dans les toilettes dans lesquelles j'étais, de cette maison de campagne, il y a très longtemps, j'avais 11 ans, donc il y a vraiment très longtemps, j'ai découvert une bande dessinée, et je suis tombé dingue de cette bande dessinée, de cette période. Et depuis, effectivement, ça ne m'a jamais quitté. Et lorsqu'il s'est agi de parler cette année de l'Égypte, j'en étais ravi. J'ai beaucoup lu les romans de Christian Jacques, évidemment. J'ai beaucoup lu aussi de la littérature plus universitaire. Mais c'est vrai que l'Égypte est toujours une période qui m'a fasciné. C'est le berceau de notre civilisation.
Exactement.
Et puis je l'ai faite pour être sûr d'être invité chez vous. C'était un autre lot adéquat.
Et pour aller chez Nikos, tu passeras à la Grèce antique.
Ça commence ce soir, donc 21h05 et 21h55, deux épisodes sur France 5, et puis l'intégralité sur France.tv de ces aventuriers de l'Égypte antique. On en parle avec Bruno Solo jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Old Love.
Je suis fan de Bruno Solo. La vérité, si je m'en vous êtes vraiment trop beau, que ce soit caméra, café ou bien la guerre des trônes. En matière de talent, personne vous les trône. Et vous êtes là pour les aventuriers de l'Égypte antique. Une docu-série au budget pharaonique. Il y a Champollion, Mariette et puis Nagui le kiff. Lui, il vient pour n'oublier pas les hiéroglyphes.
Encore.
Je suis fan de solo, mais à la guitare j'évite. Ça ressemblerait plus aux sept plaies d'Égypte. Mais vous vous êtes rocké, même joué dans un clip des Vampas qui parle de Manu Chao. Si non. Ça c'est pas la classe. Solo boycott pas les rois. Solo va chez Ramsès III. Le Caire c'est l'Eldorado pour du passé parler. Abchesout Akhenaton. Ah mais oui. Plus on fouille, plus on s'étonne. Que ce soit tout en Camon ou ce Nil tout le temps canon. T'as qu'à solo écouter pour oublier Trafalgar. Cléopâtre a déclaré, ça mériterait un César. C'est vraiment pas de l'arnaque et de Luxor à Karnak. Si j'étais Napoléon, je vous donnerais un bon appart. Documentario fantastico, Odi Mato fantastico, Bruno Solo fantastico et la bande originale.
Oui, oui.
Ouais, je suis fan et Leila Kam, les gens qui ont un cerveau ne cesse de dire de vous, c'est pas un Han Solo. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
C'est pas un Han Solo, c'est pas là, elle était bien camouflée, c'était génial.
C'est pas un Han Solo. Il est où, Aldelave, qu'on le retrouve et que la police l'arrête surtout?
Alors, la police, rendez-vous le 1er avril au Folies Bergères.
Mais non.
Vous le trouverez absolument. Il n'aurait qu'à le cueillir.
Bruno Solo, non seulement c'est pas un âne, mais vraiment, on vous sent passionné et on imagine que c'est pas simplement un texte que vous avez appris, pardon, que vous lisez au prompteur.
Bah, c'est moi qui les écris surtout.
Ah bah voilà, oui. Une information qui est intéressante.
Enfin, c'est à dire que
je
m'appuie sur le texte évidemment écrit par les historiens, par des égyptologues en l'occurrence, mais après je l'adapte complètement et c'est moi qui refais à ma sauce certains textes. Alors évidemment, il y a des
comme vous l'avez fait pour le Voyageur d'Histoire,
comme je le faisais pour pas pour mes livres, ça c'est encore autre chose, j'ai écrit tout seul, mais c'est vrai que même comme je le faisais pour la Guerre des Trônes jusqu'à présent depuis 8 ans, effectivement tous les textes, je les retravaille et je les intègre effectivement à mes propres connaissances en m'appuyant évidemment sur les sources historiques.
Y compris pour les jouer un tout petit peu quand il s'agit simplement de faire réagir les personnages que vous évoquez. Alors ce que l'on apprend, on apprend des tonnes de choses.
Sur l'égyptologie, hein, c'est pas tellement une série sur l'Égypte, mais c'est la naissance de l'égyptologie qui va être effectivement un bouleversement géopolitique
mais
pour l'Europe.
Le point de départ est totalement fou, c'est-à-dire que Napoléon se trouve obligé d'avoir une nouvelle conquête, et en fait, pour éviter de faire cette conquête, il va détourner l'idée en disant « Non, j'ai un truc plus malin à faire, c'est le commerce qui passe par le canal de Suez, enfin par ce qui sera ensuite le canal de Suez, par le Nil, et donc je vais m'occuper de l'Égypte. » Mais presque par défaut.
Bah oui, parce qu'on lui a demandé d'envahir l'Angleterre, il savait qu'il en était incapable, qu'il n'avait pas la flotte nécessaire. L'Angleterre n'a jamais été envahie par qui que ce soit, hein, c'est le principe, à part peut-être par tes ancêtres, Aldelaf.
Oui, c'est ils ont tout ravagé là-bas.
Voilà, ils ont ravagé, et puis après...
Ou qu'ils aillent, ils ravagent.
Les Anglais ont dit il n'y a plus personne qui rentre. Et effectivement, donc Napoléon, voyant ça, a décidé de faire une conquête en Égypte où les Anglais, effectivement, tenaient le commerce international, si je peux dire, la route de la soie, etc. Donc il est parti là-bas, mais comme ce n'était pas tout à fait le dernier des imbéciles, même si on peut discuter un petit peu de qui était Bonaparte, on l'aime bien, mais Napoléon, après le tyran, le dictateur, le conquérant.
Le sanguinaire,
un peu sanguinaire quand même.
Le voyageur.
Eh bien, lui, il s'est dit je vais partir là-bas. Mais je vais amener... L'Égypte avait été déjà découverte par les Grecs, par les Romains, par les Arabes. Au XVIe siècle aussi, il y avait eu des moines, notamment français, qui s'étaient baladés en Égypte. Mais on n'avait jamais creusé véritablement ce pays.
Au sens propre du terme, parce que c'est là où les fouilles sont arrivées.
Il est parti donc avec des dessinateurs, des architectes, des archéologues. Le mot égyptologie n'existait pas, les égyptologues n'existaient pas. Ils sont partis un petit peu avec leur bite et leur couteau. Et puis, tout d'un coup, ils ont découvert ce pays. Et ils ont compris compris à quel point il était fondateur de notre civilisation.
Alors c'est vrai que ce que vous racontez, c'est pas, mais il y a quand même pas mal d'informations qui arrivent sur l'Égypte, mais surtout les histoires humaines, de compétition entre l'Angleterre, la France, la Prusse, quelques Italiens qui viennent pour conseiller les uns ou les autres.
Ils se mettent du côté des Français ou du côté des Anglais.
C'est ça, c'est ça. Mais il y a aussi la manière dont cette culture a été totalement dépouillée, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons mercantiles purement et simplement, et y compris par les Égyptiens eux-mêmes, qui démontaient au fur et à mesure les pyramides pour leur propre construction.
Depuis le temps des Arabes, parce que l'Égypte était considérée comme un pays païen par effectivement les musulmans, qui considéraient que c'est ce peuple amoureux de Dieu, avec des têtes à bestiaux, etc. C'était des hérétiques, quoi, en gros. Et donc, c'est vrai qu'ils n'ont jamais hésité à se servir.
Ils ne respectaient pas les tombeaux.
Mais bon, en même temps, c'est normal. Ils construisaient leur propre pays. Il fallait bien qu'ils aillent trouver des pierres là où elles étaient. Et effectivement, elles étaient notamment sur le plateau de Gizeh, sur la pyramide de Khéops, de Mykérinos et compagnie. Donc,
alors, c'est normal qu'ils servent là. La force de votre série documentaire fiction, je le rajoute, parce qu'il y a encore une fois des personnages qui prennent vie. Il y a également des hiéroglyphes qui prennent vie. C'est ça que je veux évoquer. C'est la manière dont l'intelligence artificielle, qui fait extrêmement peur, et pour beaucoup de bonnes raisons, mais
quand elle est bien utilisée.
Pour éviter d'en avoir peur, autant s'en servir et autant maîtriser l'outil. Et là, l'outil sert à faire revivre les hiéroglyphes, à faire vivre des photos également, et à reconstituer les pyramides telles qu'elles étaient au début, c'est-à-dire totalement lisses, et même qui pouvaient refléter la lumière du soleil, redonner au sphinx sa dimension, sa couleur.
Son pif aussi.
Ses couleurs aussi. Voir le sphinx en couleur, c'est totalement dingue.
Ah non, mais il était maquillé comme une voiture volée, le sphinx. C'était invraisemblable. Et puis même les couleurs. D'ailleurs, les couleurs, elles sont encore... Moi, je suis allé dans la Vallée des Rois, à l'intérieur des tombes de la Vallée
Elles sont protégées, oui.
Elles sont extraordinairement protégées. Et les couleurs d'origine sont quasiment préservées. C'est fascinant. Moi, j'ai quand même eu la chance de pas mal voyager dans ma vie. Je pense que j'ai jamais été submergé par une émotion aussi puissante que je ne l'ai été en Égypte. C'est-à-dire le contact que vous avez, c'est fracassant, c'est extraordinairement impressionnant.
Cette émotion vient du fait que ce soit des tombes.
Oui, puis c'était extraordinairement préservé par rapport à Athènes ou par rapport à Rome.
C'est leur rapport à la mort, justement, parce que systématiquement, ce sont donc des tombeaux.
Ah, mais moi, je me ferais momifier, c'est clair.
Ils se racontent sur les murs, et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que vous parliez de bande dessinée tout à l'heure pour la naissance de votre amour de l'Égypte, mais sans aller jusqu'à dire que les hiéroglyphes étaient des espèces de bande dessinée.
Quasiment.
En tout cas, ils se racontaient sur les murs.
La vie quotidienne, effectivement, pas simplement la vie des souverains, pas simplement...
Non, les travaux des champs.
Mais les travaux des champs. C'est là aussi comme ça qu'on a découvert qu'il n'y avait donc pas d'esclaves qui avaient construit les pyramides, mais que les pyramides étaient construites uniquement par des ouvriers spécialisés qui étaient payés, qui étaient logés, qui étaient nourris. Enfin, ils n'étaient pas payés, pardon, ils étaient logés, nourris, habillés, ce qui leur permettait de construire. Il n'y avait pas de coups de fouet, etc. Tout ça, c'est des légendes qui ont été transportées après par Hollywood. Alors qu'on savait déjà, les égyptologues savaient qu'il n'y avait pas d'esclaves. Les esclaves, ils partaient ou à la guerre ou ils servaient dans les grandes maisons. Mais il n'y avait pas d'esclaves sur les chantiers égyptiens.
Et il y avait des jeux, les joutes. Il y a des scènes où on peut penser que c'était des scènes de guerre, mais en fait, ils s'amusaient.
Tu me tiens par la barbichette, qui est né en Égypte.
Non, mais je pense aux joutes. En l'occurrence, c'est-à-dire qu'il y a deux dessins où l'on voit clairement des jonques, que sais-je, avec des Égyptiens dessus, en train de se pousser pour tomber à l'eau juste sur
Interville, quoi.
Ouais, c'est ça.
Interville.
Et alors,
on achète peut-être des hippopotames, c'est un peu plus dangereux, mais c'est vrai, c'est Interville.
Ce rapport à la mort, c'est le point de départ de tout, finalement, parce que les pyramides et la manière dont ils veulent s'élever, c'est se pointer justement les...
Vers Ra, vers le dieu du soleil. Oui, c'est ça. De toute façon, il y a un culte de la mort, mais qui les rend plus sereins, sans aucun doute, vis-à-vis de notre issue fatale à tous. Ils ont un rapport à la mer qui est à la mort, et à la mer aussi d'ailleurs, qui est plus serein, qui peut l'être véhiculé par d'autres religions.
Qu'est-ce que vous avez appris en préparant et en jouant et en interprétant les aventuriers de l'Égypte antique ? Est-ce que c'est la guerre justement qu'il y avait entre les Anglais, les Prusses, les Français avec les Italiens au milieu et que finalement il y avait des conflits d'intérêts parce que l'Égypte a été dépouillée, c'est ce que
Bien sûr, dépouillée et aussi avec la complicité de Mehmet Ali qui était le premier grand pacha ottoman, parce que les Ottomans occupaient l'Égypte au moment où les Français sont arrivés.
Et qui a fait naître l'Égypte moderne aussi.
Voilà, qui a fait naître l'Égypte moderne, qui s'est rendu compte au bout d'un moment moment, effectivement, qu'il allait peut-être falloir récupérer tous les trésors dont on l'avait dépouillé, avec le musée du Louvre, le musée de Turin et le musée, le British Museum.
Et c'est un Français.
Et c'est un Français,
Mariette,
monsieur, Auguste Mariette, qui le premier, alors qu'il a été au début un dynamiteur, qu'il a fouillé de manière envers et contre tous les tombes, comme ça, de manière un peu sauvage. Et puis un jour, il a pris conscience qu'effectivement, que les trésors de l'Égypte devaient revenir à l'Égypte. Et ce peuple a pris conscience, effectivement, de la puissance de sa civilisation.
Je me demande si c'est pas par malice que ce Français a dit aux Égyptiens, gardez les trésors pour vous, presque pour empêcher que les Prussiens ne les dépouillent.
Non, pas que, mais c'est vrai que... De toute façon, il y avait un conflit stratégique, il y avait un conflit géopolitique entre les Français, les Anglais, dans une moindre mesure les Italiens, les Prussiens, et puis plus tard, on le verra dans les épisodes 5 et 6, notamment, les Américains qui commencent à arriver. C'est eux qui vont faire la fameuse découverte en Howard Carter en 1922 de Toutankhamon. Et ça, ça a été la grande naissance de l'égyptologie en France.
Alors ça,
notamment.
C'est pas dans la série Toutankhamon.
Non, ce sera dans la série à partir de...
Ah bah là, moi, je me suis arrêté au 6e épisode.
Ah oui, c'est vrai, ce sera... Ah oui, pardon.
Excusez-moi.
Vous savez quoi, j'anticipe, vous savez
la 12
pourquoi ? Non, mais parce que, logiquement, si ça fonctionne bien,
okay.
Eh bien, il y aura 3 saisons.
D'accord.
Nous irons, a priori... Wow. Jusqu'à
1922. Tout en Cameroun.
Voilà. Parce que.
Jusqu'à Nagui.
Voilà. On s'attendra la veille de l'émission. Mais c'est vrai que j'anticipe un peu, c'est vrai. Les Américains vont arriver, mais là, c'est un conflit d'intérêts. C'est un. L'Égypte, au moment où on la découvre par le biais de Vivant Denon, qui est le premier vrai, qu'on peut considérer comme le premier vrai égyptologue.
Envoyé par Napoléon,
qui va dessiner, désensabler certains sites. Eh bien, il va écrire une encyclopédie autour de l'Égypte qui va rendre à moitié dingue la population française. La mode autour de l'Égypte est devenue complètement folle à la fin du 19e siècle.
Tout ce suspense, parce qu'il y a un véritable suspense aussi sur la pierre de Rosette, suspense également sur la manière dont certains trésors ont été ou sarcophages ont été embarqués.
Comment certains égyptologues vont s'en sortir
dans des bateaux. Ces bateaux ont-ils réussi leur traversée, ont-ils coulé ou pas?
Les malédictions et tout ça.
Qui va réussir? Non, il y a même un véritable suspense aussi sur. Des temples totalement dépouillés, mis dans des caisses avec marqué spécimen dessus, et puis en essayant de pas trop se faire gauler par les militaires du coin, avec le bakchiche qui vient au bon moment pour dire aux militaires laissez-nous tranquilles, on va quand même partir, mais ils se font arrêter quand même à la douane. Enfin bref, il y a quand même aussi une véritable tension narrative qui fonctionne. Surtout avec ces effets spéciaux, ce jeu d'acteurs de Bruno Solo, plus le jeu de tous les acteurs autour de vous, parce qu'il y a quand même du monde pour interpréter les
Dominique. Qui joue Napoléon, qui jouait déjà dans la saison 8 de La Guerre des Trônes, Napoléon Bonaparte, qui est un de nos plus grands comédiens, Maxime Nabeauville.
Philippe Vesser dans le rôle de Dominique Vivant Denon.
Ah, il est formidable, lui. Incroyable.
Il
est particulièrement émouvant parce que Dominique Vivant Denon est le premier qui a commencé, le premier en tout cas occidental, qui a commencé à découvrir les trésors cachés et enfouis, ensablés de l'Égypte, et il éprouve des émotions qui le traversent et qui voilà, il le fait avec beaucoup d'intelligence.
Au point où on se rend compte dans la série que c'était vraiment des personnes qui grattaient du sable, dégageaient des entrées de temps, ou qui même dans le 6e épisode, presque par hasard en marchant, tape sur une pierre, creuse un tout petit peu et voit le haut d'un sphinx.
C'est dans les cigares du pharaon, dans Tintin, c'est exactement comme ça, il trébuche.
Hergé s'est inspiré de
on en revient à la bande dessinée.
Toujours.
On en parle jusqu'à midi et demi, c'est absolument passionnant. Les aventuriers de l'Égypte antique, c'est à partir de ce soir à 21h05 sur France 5. Et voici venir Julie Conti. Vous n'auriez pas raconté l'Égypte antique comme
non,
ça, vous.
Non. Alors, juste avant de démarrer, sachez, Bruno, que dans l'équipe, moi, je suis le joker du joker. On m'appelle quand personne n'est dispo ou que personne ne veut le faire. Attendez, en plus, j'ai la nationalité française et espagnole. Mais merde, je suis le Manuel Valls de la bande originale. Quelle Est-ce que ça veut dire que je vais devoir aller avec Brigitte Macron en coulisses encourager Harry Habitant? Non, mais ça m'arrange pas, je vous le dis tout de suite. Alors non, j'aurais pas fait cette série doc comme ça, mais uniquement parce que quand je pense à vous, Bruno, je vois votre personnage de Caméra Café. Et j'ai du mal à imaginer Hervé Dumont sur le service public en bras de chemise nous présenter cette civilisation millénaire à l'origine des maths, de la médecine, de l'architecture, de l'irrigation qui a structuré la politique politique, la société, la vie quotidienne, influencer la science, l'imaginaire collectif, l'Égypte antique. Oui, je précise Égypte antique parce que avec cette description, on pourrait confondre avec les Marseillais à Cancun. Hein. Mais non, moi Hervé Dumont, mais je l'aurais plutôt imaginé raconter des conneries entouré de crétins sur un média pas propre. Bah en fait pour moi Hervé, c'est Pascal Praud qui boit des kawas quoi. Pas bah, sympa pour Hervé. Hein.
Mais sinon, très mal.
Sinon, je suis ravie que vous sortiez cette série documentaire parce que ma fille de 6 ans adore l'Égypte antique. C'est super qu'elle ait cette passion, mais je me retrouve dans des conversations bizarres au petit-déj. Maman, maman, Cléopâtre, elle a épousé ses frères Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Moi aussi, je peux. Ben non, ma chérie, les choses ont changé. Enfin, sauf dans la famille Christine Boutin. Hein. Franchement, avec mon mec, on regrette de lui avoir limité les écrans et lu des bouquins. Maintenant, ça nous fait vriller le cerveau, quoi. Après, c'est vrai que Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, s'est mariée avec ses frères pour garder le pouvoir dans la famille. Ouais. Bonne stratégie pour garder le pouvoir. Moins bonne si tu veux que ta descendance sache faire du calcul mental. Non mais si les pharaons ont disparu, c'est peut-être parce qu'au bout de 3-4 générations de consanguins, ils ont commencé à bouffer des piles. Hein. Après, c'est fort parce que les piles, elles n'existaient pas à l'époque. C'était
vraiment ah, d'après Maître Gims, si.
Ah ouais. Mais finalement, pour un pays, en vrai, tu l'épouses ton frère, non? Non mais, est-ce que, je pense que du coup, c'est la bonne occasion de se poser ensemble, tous ensemble, la question... Pourquoi serais-je prête à épouser mon frère ou ma sœur?
Ok.
Eh ben moi j'habite à Genève. L'immobilier tourne autour de 15 000 euros le mètre carré. Eh ben je peux vous dire honnêtement, pour un beau 3 pièces au centre-ville, je l'épouse mon frère. Ah non, ici il y a une terrasse, mais j'épouse même mon père, hein, je vous le dis. Mais Bruno Solo, Bruno, c'est aussi une partie de l'histoire de France que vous nous racontez. Et pas que des faits glorieux, notamment quand Napoléon a abandonné ses troupes en Égypte pour rentrer en France. Ces hommes n'avaient même plus de bateaux. Ils ont dû se faire rapatrier par les Anglais, par l'ennemi. Purée, tu sais que t'as perdu quand tu dois rentrer de la guerre, on stoppe quoi. Franchement, Napoléon c'est quelque chose. Il a abandonné ses troupes, rétabli l'esclavage, censuré la presse, mené l'Europe au carnage, flingué les idéaux de la Révolution, et il n'en a encore qu'il le célèbre simplement comme un grand conquérant et un réformateur. C'est comme si aujourd'hui des médias tressaient des lauriers à un ancien président devenu tollard intérimaire et écrivain chier. J'ai pas suivi l'actu, mais on est d'accord, ça arrive pas ça en France.
Non, ça arrive jamais.
Mais pour en revenir à l'Égypte ancienne, je dois reconnaître que moi aussi je trouve cette période absolument passionnante intellectuellement, mais aller voir des momies au musée, ça non. Hein, la momification était pensée pour préserver les corps afin que l'âme puisse les reconnaître et y retourner. C'était pas pour finir sous un néon à Paris, derrière une vitrine pendant que Roger et Corinne en claquettes prennent des selfies en disant « C'est marrant, on dirait un peu mon oncle !» Non, non, les momies étaient censées reposer en paix. Aujourd'hui, elles reposent surtout sur Google Images. Et dans votre série documentaire, on voit d'ailleurs toutes les allées et venues des Européens en Égypte pour récupérer gravures, bustes et autres cailloux pour remplir leur musée. Tout ça pour qu'aujourd'hui, des bus entiers d'ados en sortie scolaire s'endorment devant au son d'un audio guide, quoi. Je sais que c'est mal, mais parfois, moi, j'ai envie de sauter dans une machine à remonter dans le temps pour être un homme blanc du 18e siècle. Ah. Non, mais, eux, hein, le monde, c'était une ludothèque. Hein, je mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars? On va taper de l'Indien en Amérique ou on va piquer des vieux trucs dans ces HLM égyptiens chelous en forme d'équerre? Alors, évidemment, pour plein de raisons, je suis totalement contre le discours de « c'était mieux avant ». Mais soyons honnêtes, si t'es un homme blanc européen, objectivement, c'était mieux avant. Non, mais c'est vrai, si t'avais oublié un cadeau pour l'anniversaire de Bobonne, tu pouvais juste foutre des dynamites dans la pyramide de Gizeh pour niquer une babiole. Aujourd'hui, tu dois l'acheter et pas en ligne, s'il te plaît, parce que madame, elle est co-responsable. Non, mais quand je vois mon pauvre Daniel regarder dans le vide avec son café dégueulasse à 50 centimes dans la main,
pas plus.
Je me dis, mais à quoi il pense? À quoi il pense? Mais au fait qu'il y a 300 ans, ouais, il aurait pu piquer l'entièreté du trésor égyptien, mais aujourd'hui, il doit bosser pour un Égyptien. Et oui, mon Daniel, mais ouais, les temps changent et il serait peut-être temps de rendre à l'Égypte ce qui lui appartient. Non. Enfin, sauf Nagui. Toi, on te garde.
Merci.
Bravo. Quel joker!
Ça, c'est du joker. Et attention, le joker est sur scène.
Julie!
Du 4 au 7 février, elle sera à l'espace Gerson, c'est bien ça, oui, à Lyon. Le 11 février, à Lausanne. Et ce soir, la visite stand-up du musée d'art et d'histoire de Genève. Elle voilà, s'y collera.
Quand on voit, Bruno Solo, la manière dont les découvertes ont été faites, on a... Alors, juste une petite précision sur la dynamite. Elle n'existait pas à l'époque. C'était des explosifs qui servaient...
Oui, c'était de la poudre à canon, ouais, et ça faisait office de dynamite. Mais effectivement, ça a fait des dégâts.
Ce que j'allais dire, ça a fait des dégâts, oui. On a l'impression qu'il y a quand même quelques découvertes qui ont été faites.
Non, dans la vallée des Rois, dans la vallée des Rennes aussi, il y a eu des dégâts inhérents à la dynamite. Enfin, donc, à la poudre à canon. Non, bien sûr, mais c'était pour... désobstruer, si tant est que ce mot existe.
Des entrées, en tout cas.
Ouvrir des
brèches.
Endroits les plus inaccessibles.
Parce que ce qui est fou, c'est que le sable recouvrait, montait jusqu'à 10 mètres de haut et cachait donc des temples.
C'est sans aucun doute le pays, encore aujourd'hui, au monde, où il y a le plus de villes, de cités, de temples enfouis.
Encore aujourd'hui,
c'est sans aucun doute infini ce qu'on est susceptible de trouver tout autour du Nil. L'Égypte, c'est un pays immense. Le Nil, c'est le plus grand fleuve du monde. Et jusqu'aux bases du Nil, quasiment au niveau du Soudan, on est susceptible de trouver des villages. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut découvrir, plus qu'en pré-Colombie, plus qu'en Grèce ou qu'à Rome, pour parler du monde entier.
Je ne sais pas quand la série a été tournée, mais en tout cas, anecdote.
Au
mois de mars. Donc c'était avant les inondations.
Oui, au mois de mars, en Égypte. Après, j'ai tourné en France, là, en septembre.
Donc c'était avant que le Louvre soit inondé ou voire dépouillé. Et justement, il y a là aussi des dossiers, des trésors qui ont été inondés dans la série. C'est un clin d'œil de l'histoire aussi. C'est-à-dire, et c'est ça qui est absolument remarquable aussi, c'est le talent de tous ces aventuriers. Parce que je rappelle que cette série n'est pas là pour raconter l'Égypte, même si par le prisme des aventuriers, on découvre beaucoup de choses autour de l'Égypte. Mais c'est surtout la manière dont les hommes, exactement, se sont battus les uns contre les autres,
aidés par des femmes. Alors effectivement, elles vont arriver un petit peu plus tard, parce qu'évidemment, on est dans un monde éminemment masculin. Tout à l'heure, vous parliez de Napoléon, il y a aussi le code Napoléon, le code patriarcal par excellence, c'est tout qu'il a imposé, et avec les hommes qui auraient droit de vie et de mort sur leurs femmes et leurs enfants. Donc ça, c'est quand même Napoléon qui l'a imposé, et on est dans une société ultra misogyne, et pourtant, il y a déjà beaucoup de femmes archéologues, architectes, dessinatrices, mais qui ne sont pas conviées, et il n'y a que Belzoni, qui est un explorateur italien, un personnage complètement dingue, sûrement le plus dingue que j'évoque dans ses aventures.
Mais qui, lui, est un conseiller pour la France.
Il est conseiller pour les Anglais, Belzoni. C'est Drovetti.
Ah, c'est de l'autre Italien, pardon.
Mais Belzoni, il travaille avec les Anglais, et c'est un ancien lutteur de foire, haltérophile.
Il fait 2 mètres de haut, c'est ça?
Il fait 2 mètres de haut.
Et sa femme était acrobate.
Il part en Égypte, mais vraiment, il se demande ce qu'il va y foutre. Et pourtant, ce mec-là a quand même fait un système d'irrigation qu'il va proposer à Mehmet Ali. C'est un ingénieur, un homme fort, et lui, il amène sa femme et il intègre sa femme dans ses recherches autour de l'Égypte. Et il va devenir complètement dingue. D'ailleurs, il va aller jusqu'aux sources du Nil, lui, et il en crèvera d'ailleurs.
Alors, ce qui est fort, c'est
l'intelligence
artificielle permet de reconstituer des monuments qui ont été détruits, de compléter finalement ce qui a été soit abîmé par l'homme, soit abîmé par simplement le temps, et les couleurs dont on parlait tout à l'heure pour le sphinx. Mais ce que l'on découvre aussi, ce que moi j'ai appris, c'est les qualités de dessinateurs des uns et des autres. C'est-à-dire que c'était même plus fort que certaines photos. Il y a des dessins, que ce soit d'ailleurs d'objets ou des êtres humains qui
étaient
autour.
La vitesse à laquelle il dessinait.
Impressionnant.
Vivant de nom, par exemple, il a compris que certaines découvertes, certains temples, certains villages, qu'il a découvert lors de ses fouilles, il a compris qu'il pourrait pas les ramener, tout simplement, et qu'elles seraient très vite recouvertes par le sable, hein, parce que le désert est mouvant. Ouais. Donc évidemment, les choses apparaissent, puis disparaissent. Et il a dessiné à une vitesse dingue, notamment à Karnak, à Abou Simbel, etc. Il a dessiné à une vitesse folle des dessins qui sont d'une précision, exactement, quasiment photographique. Il n'y avait plus grâce à l'IA qu'à les colorier pour les rendre attractifs. Mais je pense qu'effectivement, il y en a qu'on aurait pu laisser presque en noir et blanc.
Les colorier, voire les animer aussi.
C'est
ça qui est fort dans cette série. Je rappelle, c'est un docu-fiction. À la fois des scènes sont jouées par des actrices et des acteurs, à la fois ces animations en intelligence artificielle, et puis le face caméra, mais qui reste dans la narration aussi, voire l'interprétation de Bruno Solo. Vous accompagne pendant ces 6 heures absolument passionnantes. À partir de ce soir, les 2 premières heures, la totalité sur France.tv et peut-être d'autres saisons
à suivre.
Pour vous, simplement en une phrase, Bruno Solo, qui a remporté cette compétition d'avoir la plus belle collection représentant l'Égypte? Les Anglais, les Prusses ou les Français?
Ah, les Anglais, parce qu'ils ont la pierre de Rosette, et qui nous ont piqué. C'était dans le cadre, effectivement, d'un conflit entre les Français et les Anglais. Les Français n'ont pas hésité à piller les trésors découverts par les Anglais. Les Anglais se sont vengés sur la pierre de Rosette. Mais la pierre de Rosette, elle est essentielle.
Elle est au British Museum,
et elle permet véritablement, alors, grâce à Thomas Young, mais surtout, évidemment,
à Jean-François Champollion,
elle permet de comprendre la civilisation égyptienne, comme jamais elle n'avait été comprise jusqu'à présent.
Il a réussi.
J'aime pas vraiment les hiéroglyphes, mais
c'est un peu pointu. Ouais, bravo.
Moi, je dirais aigle, glaive et eau.
Ouais. Ça, ouais. C'est comme ça que
c'est. C'est ma réponse, c'est ma réponse. Non mais blague à part, c'est grâce à une copie qu'il a faite justement de cette pierre de Rosette qu'il a. Il a mis combien de temps pour la déchiffrer ?
Il a mis 5-6 ans à la déchiffrer. Il a travaillé grâce
en restant en France et c'est seulement ensuite qu'il a pu aller en Égypte vérifier que son alphabet était correct.
Très bizarre, hein, Champollion. Hein, vous verrez, vous le découvrirez dans les prochains épisodes. Mais c'est un homme très bizarre.
Et puis il y a son frère aussi.
Et son frère qui l'a beaucoup aidé, qui l'a beaucoup soutenu. C'est un peu l'équivalent de Théo Van Gogh avec Vincent Van Gogh. Lui, il est malade, il est pas sûr de lui, il est anxieux, il est autoritaire.
Oui, sauf que son frère a pris la relève, ce qui n'était pas le cas Théo.
Voilà. Ah bah oui, enfin Théo quand même, il l'a beaucoup aidé de son vivant.
Oui,
et
oui.
Voilà.
Mais plus qu'en tant qu'agent que peintre.
Ça... Oui, mais on digresse. Mais je veux dire, le frère de Jean-François Champollion a été aussi son agent. Il l'a soutenu dans ses recherches. Et effectivement, grâce à Champollion, c'est inimaginable en fait le bond qu'il fait faire à l'archéologie, qui va donc devenir l'égyptologie, le bond gigantesque qu'il fait faire à la science et à la connaissance qu'on a aujourd'hui du monde antique et à la traduction des hiéroglyphes.
Vous l'avez compris, c'est totalement passionnant, d'autant que, et on va le préciser aussi, il y a beaucoup de lieux sur lequel vous êtes allé tourner. Et tout à l'heure, on va évoquer la fascination pour l'Égypte antique avec Jean-Guillaume Aulette-Pelletier, qui est docteur en égyptologie, qui sera notre invité dans quelques instants.
Mais d'abord, absolument.
Celle que vous m'aviez conseillée, je fus un temps, et il faut rendre à Bruno Solo le mérite de m'avoir dit « Tu devrais écouter Mélodie Fontaine, elle serait pas mal dans la bande
et
originale. » Et la voici, Mélodie Fontaine.
Oh, salut mes petits harenceurs qui sont frais ce matin, on dirait le marché de mon cul. La ville du Lot, hein, pas mon dedans. Hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou alors qui m'ont effacé de leur mémoire, c'est votre Jean-Dé. Ah, mais si, Jean-Denis Grosjus, le voyant le plus célèbre du sud de la Trique. La ville des Deux-Sèvres, hein, pas mon machin. Alors, ils vont bien ? Bon, écoutez, moi en ce moment, je sais pas ce qui se passe, j'ai dû choper une saloperie, je vois des morts partout. Je les vois, ils marchent parmi nous comme ça les ragards, on dirait un samedi à Leclerc. Vous allez me dire, voir des morts pour un voyant, c'est la base. C'est comme, je sais pas, dans vos métiers d'artiste, sur vos CV, c'est maîtriser Word, bon niveau d'anglais et savoir garder son pantalon. Mon don, ma malédiction, comme j'aime à l'appeler, est super, mais c'est parfois dur de faire la distinction entre ceux qui sont morts et ceux qui ne le sont pas. Chez certains, c'est plus évident que chez d'autres. Par exemple, moi qui viens régulièrement à Radio France, je vois à chaque coup Eddie Mitchell errer dans les couloirs. Et bah, bon, lui, j'en fais pas grand cas. Je sais que le pauvre homme est coincé ici, son âme probablement à la recherche de quelque chose.
Mais Eddie Mitchell est bien vivant, Jean-Denis.
Ah bon ? Bah pourquoi qu'il me répond pas quand je twiste à côté de lui ? Bon, pourtant, j'ai ce don depuis tout petit et ça m'a valu quelques moments de gêne, mais aussi beaucoup de tendresse. Comme avec un qui m'émeut beaucoup parce que c'était un chic type et que je le vois là, tout bloqué entre deux mondes chaque matin, persuadé de pousser la chansonnette devant des gens qui l'écoutent. C'est mon ami Oldelaf. Vous savez, il est dans la pièce en ce moment.
Bah oui, j'en ai. Enfin, je suis dans la pièce, mais je suis pas du tout mort en fait.
Oh, c'est mignon. Il croit que vous l'entendez. Il vous embrasse.
Non, mais c'est vexant là, j'en ai. Je vous emmerde, je crois.
Il vous embrasse très très fort. Donc, je vois des morts depuis que je suis tout petit. Que voulez-vous ? On a même fait un film dans les années 90. Sixième sens, c'est moi. Le petit pas foutu de dire à Bruce Willis qu'il est cané alors qu'il le côtoie toute la journée. Je suis un enfant star. Allez, assez parlé de moi, place à vos horoscopes, mes cailles. Bélier, vous vous donnez tant de mal au boulot que ça finit par payer. Votre moitié vous déteste et vos enfants vous emmerdent. Champagne. Cancer, vous postulez pour le prochain Avatar. Elle va enfin servir à quelque chose, cette grande queue toute bleue. Sagittaire, vous interprétez très mal le sens de la chanson « Recommence-moi » de Santa. Pas de panique, je connais un très bon avocat. Scorpion, poil au kiki. Bon, j'arrive pas à me relire. Capricorne, soudain, vous décidez de combattre le technopopulisme et la post-vérité pour défendre la liberté de conscience et la démocratie. Bon, là, j'ai réussi à me relire, donc retournez bosser. Pas tout ça, mais il y a du cold emailing et du data enrichment à fourrer. Gémeaux, ce que vous croyez être un bouton de fièvre est un herpès. C'est vrai qu'il était étrange, ce médecin à domicile avec son thermomètre plein de veines.
Oh non ! Non !
Lion, Devenez la meilleure version de vous-même. Devenez juste un peu moins con. Vierge, vous relisez 1984 de George Orwell. Vous trouvez ça fade comme livre d'histoire. Taureau, vous vous posez des questions sur votre sexualité. Des questions, mais n'attendez pas de réponse, malheureux, vous avez des doigts. Poisson, vous avez le cul bordé de nouilles. Une caouette et ça part en pas de taille. Balance, vous croyez aller voir Zootopie 2, presque. C'est fou comme à 4 lettres près, un lapin change de rôle. Verseau, vous vous recherchez une conscience. Retirez-vous les doigts du luxe, surprise, elle était coincée sous un ongle. Je vous embrasse de l'anus, pas la ville. Bisous.
Yes. Forme mélodie.
Elle m'a épuisé, elle m'a épuisé. Attention, les dernières au point virgule. Samedi et le vendredi, c'est à 20h. À Nîmes, elle y sera le 18 janvier. Et à Lys, c'est dans le 91, ce sera le 24 janvier.
Les aventuriers de l'Égypte antique avec Bruno Solo et avec de nombreux comédiens comme Philippe Wessert, Alexandre Magetniak, Célia Briand, Guillaume Huchet, Bruno Rochette, Karam Lamrani qui joue Mehmet Ali jeune, El Mahmoudi Mabrek qui joue Mehmet Ali vieux, parce que c'est vrai que ce pacha a régné pendant des décennies, une cinquantaine d'années pratiquement, non ?
C'est ça, 48 ans.
Et qu'il a finalement... aider tel ou tel pays pour les
oui,
pour
en fonction de ses intérêts à
avec
lui.
Malice ouais c'est
oui,
ça
avec malice c'est légitime hein. Il arrivait ici, il a vu qu'il pouvait profiter des Anglais, parfois des Français, parfois aussi des Prussiens. Il a été très pote avec Lepsius, notamment un des grands égyptologues qui arrivait un peu sur le tard, on le découvrira dans l'épisode 4. Et effectivement il s'est un peu servi d'eux, mais c'est un jeu de dupes auquel voilà il faisait participer l'Occident, et je trouve que c'est la moindre des choses.
Florian Huter joue le rôle d'Auguste Mariette, Antoine Lelandais Moumain Zabouti, celui de Giovanni Caviglia, Thibaut Buat, Maxime Daboville, Antoine Heuillet, Arthur Massot, Bastien Leblanc, Christophe Laval, Johan Fourneron et Vincent Ropio. Vous comprenez à ce casting. Oui, c'est ça. Vous comprenez à ce casting que la part de fiction réinterprétée est également extrêmement importante. Tout ça avec intelligence et malice de l'IA. Et évidemment, l'incarnation de Bruno Solo.
C'est moi, c'est vraiment moi. Je le dis quand même.
Alors, c'est justement, c'est le problème de cette série.
Mais pour les prochaines saisons, on va régler ça, hein, visiblement. Et pour un paquet de comédiens, il semblerait.
Commencez par le maquillage avant d'aller jusqu'à l'IA. On parle de la musique aussi avec Bruno Solo avant de recevoir Jean-Guillaume Molette-Pelletier. Cette musique, Leïla, on va commencer dans les années 90.
Salut.
Et Shiny O'Connor. Pourquoi ce titre à ce moment-là pour vous, Bruno ?
Elle me bouleverse, cette chanson. Shaina de Connor me bouleversait aussi. Et je trouve que même si c'est Prince qui en est l'auteur, je trouve qu'elle
est, elle en est la première interprète. Ouais, hein, de toute façon, lui, vraiment, il l'a reprise après.
Et puis franchement, il n'y a pas d'équivalent. Ouais. J'étais dingue de cette nana.
Il se passait quoi dans la vie, Leïla, de Bruno ?
Le top, l'émission que vous présentiez avec Yvan Le Bolloc sur les meilleures ventes de singles en France, avec des sketchs.
Il faut traduire peut-être single, non ?
Oui, c'est vrai.
C'est une hiéroglyphe maintenant pour les jeunes.
Aigle, soleil, sel. Et avec déjà une unité de lieu, c'était dans un ascenseur. Il y avait plein de sketchs déjà dans un ascenseur. Ouais. Il y avait déjà le principe qu'on va retrouver plus tard avec Caméra Café.
C'est là que ça nous est plus ou moins venu. C'est-à-dire qu'on se rendait compte avec Yvan que le moment qu'on préférait dans l'émission, c'est le moment où on déconnait ensemble, qu'on faisait des sketchs. Ouais. Et effectivement, quand plus tard, on a essayé d'imaginer un programme court, nous est revenue cette idée. Et après, Yvan, parce qu'il faut rendre à César, c'est le cas de le dire, ce qui lui appartient, Yvan m'a dit, et si on faisait la vie d'une entreprise vue au travers d'une machine à café. Mais effectivement, c'était l'idée de cette économie-là, d'un plan séquence, et que ça ressemble plus à du théâtre qu'à de la télévision. Et ça nous est venu en 1990.
Comme le plein de super, en fait. Le plein de super, c'est dans une voiture. Donc,
exactement.
Il y avait encore aussi cette contrainte qui, en même temps, fait l'image, enfin, l'identité d'un programme.
Exactement.
Et qui a été maintes fois reprise, cette idée d'interview dans une voiture. En 97. The Verve, Be the Sweet Symphony, et en 97, Leïla dans la vie de Bruno Solo.
Gilbert Melki, José Garcia, Vincent Elbaz, Richard Anconina, notamment pour un film qui va rencontrer un succès fou, c'est La Vérité si je mens.
Ça me revenait pas.
Ah bon ? Avec le casting ?
Ah bon ?
J'ai peur. Je suis là, il y a un truc, il faut faire un massage cardiaque. Film de Thomas Gilou.
60 ans.
avec la certitude quand vous tourniez que ça allait être un carton ou pas ?
Ah, pas sans le premier. Même si j'étais sans aucun doute le plus enthousiaste et que je ne cessais de dire à mes camarades, écoutez, je pense vraiment à chaque fois qu'on sortait d'une séquence, enfin pas toutes, mais en tout cas la plupart des séquences de groupe notamment, je me dis, il se passe quelque chose. Mmh. Vraiment, je trouvais qu'on se fendait bien la gueule et qu'il y avait une vraie qualité d'écriture. J'avais le prétention de croire qu'il y avait une qualité d'interprétation, que Thomas Gilou, qui avait déjà réalisé Black Micmac notamment, était un réalisateur, vraiment le réalisateur idoine pour le film. Et puis c'est sur le 2 dont on s'est aperçu quand on a lu le numéro 2, 2-3 ans après, on s'est dit mais c'est évident vu le succès du premier, il avait fait 5 millions d'entrées, oui. Le 2 était encore plus drôle, plus burlesque, plus fou et tout, et on s'est pas trompé.
Il y en a eu combien?
Il y en a eu 3. Et il y a eu un quatrième, une sorte de spin-off.
Mais sans vous.
Ouais, sans nous, avec des jeunes censés interpréter nos personnages.
Après quel?
Voilà, après quoi,
il y en a eu combien de trop?
Deux. En 2001.
Non, le 3 est bien aussi.
Okay.
Dido, thank you. Et là, ce sont justement les années Caméra Café.
Voilà, la Caméra Café avec Yvan Le Bolloc et toute une troupe aussi qu'on a eu l'occasion de découvrir avec cette série qui est vendue dans plus de 60 pays, je crois. Qui a tourné absolument partout.
Je crois que là, on s'est un peu emballé sur le 60. Il y a des pays qui l'ont adapté, mais je crois que la vérité, c'est 40 pays, enfin à peu près 40
c'est
pays.
C'est beaucoup, ouais.
Oui, qui ont effectivement adapté la série. Hein, c'est-à-dire, on a vendu le format et chaque pays l'a adapté en fonction de ses envies, de sa culture.
De sa culture et de son humour.
Avec déjà le principe d'une bande d'auteurs.
Ah oui.
Voilà, on parle de showrunner aujourd'hui avec des...
J'étais le showrunner dans la série, mais j'avais une centaine d'auteurs qui ont finalement travaillé pour Caméra Café. C'est-à-dire, quand on a fait le compte, il y avait un noyau dur avec le frère d'Yvan Le Bolloc, Fred Le Bolloc, les frères Apergis, les frères Nicouille, Batani, enfin des auteurs qui sont très reconnus aujourd'hui, qui bossent notamment sur Scènes de Ménage ou d'autres séries, et puis ceux qui font des films, des séries. Mais c'est vrai qu'on a fédérer toute une armée de jeunes filles et de jeunes hommes. Il y a même Amanda Sterz qui a travaillé pour Caméra Café et Charlotte Desgeorges, qui fait de la scène aussi maintenant. Et voilà, c'est vrai que c'était un bonheur de se retrouver tous autour d'une table et de choisir ensemble nos sketchs. Pardon.
En 2007, le boss Springsteen pour incarner cette année. La musique est toujours présente dans votre vie du matin au soir? Vous écoutez beaucoup de musique?
Pas du matin au soir. Quand je travaille, j'ai du mal à écouter de la musique autre que classique parce que ça me trouble quand j'entends les paroles, etc. Même si je parle très très mal anglais, il y a quand même quelque chose qui me trouble. Et alors, la musique française encore moins. Mais je ne peux pas, comme la plupart d'entre nous, me passer de musique.
Non, mais dans une loge au théâtre, par exemple, est-ce que vous écoutez de la musique avant de jouer?
Non, pas
au contraire.
Non,
concentration.
Très bien.
Et première fois sur scène en 2007?
Ouais.
Dans le système Ribadier.
Première fois professionnellement,
ouais,
en tout cas.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est le début d'une longue ensuite. D'une longue carrière au théâtre, texte de Fedo avec une mise en scène de Christian Bugeaud.
Et avec Léa Drucker.
Ouais, des partenaires géniaux.
Jean-Noël Broutet, Léa Drucker, Fabienne Galula, Romain Thunin et Gérard Darrier.
Est-ce que c'était sûr à 100% que la scène, ça allait être pour vous?
Ah oui. Oui, je le sentais. De toute façon, moi, je viens de là, à la base, mais bon, voilà, on était plus nombreux sur scène qu'il n'y avait de spectateurs dans la salle, et puis j'ai fait beaucoup
Ce qui fait qu'on ne joue pas.
Voilà, c'est qu'on ne joue pas. On jouait quand même, parce qu'on était trop heureux de pouvoir se retrouver. Mais, pardon, mais en revanche, effectivement, j'ai toujours senti ça, et c'est pour ça que Caméra Café a été une école formidable pour ma pomme et pour les autres, parce que c'était déjà du plan séquence, et que pendant 3 à 4 minutes, on devait jouer face caméra, en jouant un peu plus pour le balcon en plus, parce qu'on avait un peu le regard vers le balcon plutôt que vers l'orchestre. Donc il y avait il fallait jouer vers le public, il fallait pas trop tourner le dos. Donc tout ça était un entraînement absolument formidable. Et quand je suis revenu sur scène, enfin avec un vrai public là pour le coup, j'ai tout de suite senti que c'était ma vraie maison.
Voilà. Ce soir, les aventuriers de l'Égypte antique, donc sur France 5, retour sur l'Égypte avec vous, Jean-Guillaume Molette-Pelletier. Merci de venir à ce micro. Vous êtes docteur en égyptologie à l'Université Paris-Sorbonne, auteur de la mythologie égyptienne aux éditions Merci, les livres. Vous êtes tombé comment, vous, dans l'Égypte antique?
La petite souris et les jeux vidéo.
Vraiment?
Ouais, la petite souris, quand en fait j'étais passionné par l'écriture hiéroglyphique tout petit. Du coup, ma mère, elle savait que j'étais passionné par ça. Et un jour, j'ai perdu une dentelée. Et la petite souris m'a apporté un livre sur l'Égypte pharaonique avec surtout l'alphabet hiéroglyphique.
Avec l'alphabet des hiéroglyphes.
Et alors là, je ne savais pas lire, mais j'adore.
Premier réflexe, écrire votre prénom en hiéroglyphe, j'imagine?
Ouais, j'ai demandé à ma mère de le faire.
Très bien. L'Égypte fascine toujours. On s'en est rendu compte avec ce tour de table. Je m'en suis encore rendu compte en me plongeant dans ces 6 heures des aventuriers de l'Égypte antique. Et là, encore une fois, c'est l'aventure humaine et de voir comment des personnes ont même risqué leur vie jusqu'à boire l'eau du Nil, jusqu'à mourir pour...
Il a chié en spray pendant 15 jours.
C'est ça, pour fouiller l'Égypte antique. Pourquoi l'Égypte fascine-t-elle tant ? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient un rapport à la vie et à la mort particulier qui nous touche ?
Ouais, toute leur vie, ils préparaient leur mort bien en avant, évidemment, avec la construction de ces grandes pyramides. Hein, les dernières créées ont été faites à la 18e dynastie, donc au tout début du Nouvel Empire, jusqu'à ce qu'ils utilisent ce qu'on appelle la Vallée des Rois. Mais en effet, ils avaient un quotidien avec la mort extrêmement fort.
Ça nous a influencé, en fait, d'avoir cette conception qu'il y a peut-être une vie après la mort. Dans toutes les religions, on a ce rapport-là qu'on hérite des Égyptiens, en fait.
Complètement.
Avec la conservation du corps.
La conservation du corps, la momification, l'idée de la résurrection avec un corps parfait, l'idée d'un paradis. Alors, la religion pharaonique a énormément évolué, mais en effet, elle a énormément inspiré les religions actuelles.
Et donc, la France a été la première, où sont les Anglais, à dépouiller l'Égypte de ses trésors.
C'est du kiff-kiff. Hein.
Je pense que c'est vraiment moitié-moitié. Alors, c'est pas un dépouillage complet. Il faut pas oublier aussi que ces expéditions, la campagne d'Égypte, c'est un peu du Stargate. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des soldats qui partent avec des chercheurs et qui visitent des nouveaux mondes. Stargate est inspiré évidemment de la campagne d'Égypte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les chercheurs, eux, ne sont pas là pour piller. Ils sont vraiment là pour étudier, cartographier, référencer.
Mais à l'époque, est-ce qu'ils avaient un soupçon ou du moins le sentiment de prendre des... Il y avait quand même des objets précieux, en or, en pierres précieuses.
Il n'y a pas eu de pillage de trésors en or. Enfin, Toutankhamon, c'est arrivé bien après, hein, 1922. Les trésors pharaoniques, on en a retrouvé quelques-uns. Puis surtout, il y avait aussi de la vente. Hein. N'oubliez pas que les Égyptiens vendaient énormément leurs artefacts, ce qui a permis d'enrichir le pays, jusqu'à ce que l'UNESCO interdise justement ce partage de fouilles et cette vente. Mais après, en effet, certains éléments sont partis illégalement en Égypte, en France, dans les cours européennes. Et notamment, on peut parler de la pierre de Rosette.
Oui, qu'on ne rendra jamais.
Que les Anglais ne rendront jamais. Enfin... Mais bon,
on ne rendra jamais à l'Égypte, vous voulez dire.
Voilà, c'est ça.
C'est une bonne question. À quel moment ? Mais c'est le même problème pour la Grèce.
Tous les pays où il y a eu des. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Tout à fait.
À quel moment les pays pourraient récupérer une partie de leur histoire ?
À quel moment, c'est-à-dire ?
Mais quelle décision qui peut dire on va rendre aux Grecs ce qui leur appartient,
ce
on va rendre à l'Égypte.
L'UNESCO, qui évidemment en partenariat, enfin avec négociation des différents pays, dans le cas, alors pour la France, c'est plutôt...
C'est envisageable ou pas ? Vous pensez que c'est possible que
oui et non.
Que la pierre de Rosette retourne au Caire, par exemple ?
Ça, je sais pas, parce que c'est vraiment un problème côté anglais. Mais côté français...
C'est toujours un problème côté français.
Depuis l'époque médiévale.
On ne reconnaît pas la spoliation, en fait. Ce n'est pas une spoliation, donc.
Non, ce n'est pas une spoliation. Par exemple, le zodiaque de Dendera, qui est au Louvre, c'est un achat. Les Égyptiens l'ont vendu à la France.
Le scribe aussi, c'est un achat.
Le scribe accroupi, c'est un peu plus compliqué, mais il ne le demande pas. Je ne sais pas pourquoi.
L'obélisque est un cadeau. Initialement, il y en avait plusieurs qui étaient offerts.
Il y en avait trois.
C'est ça. Et c'est François Mitterrand qui a.
C'est François Mitterrand qui a décliné. Rendu le deuxième obélisque.
Ah, d'accord, oui, pardon.
Voilà. Et le troisième, on avait en fait ce qu'on appelle l'une des aiguilles de Cléopâtre, donc obélisque de Thoutmose III, qui en fait a été laissé parce que Champollion disait que c'était vraiment pourri. Il a dit on va prendre plutôt les obélisques qu'on va.
Mais ça c'est impressionnant hein, quand vous arrivez à Karnak et que vous voyez l'autre obélisque, le jumeau ou la jumelle. On dit un ou une obélisque.
Un obélisque.
Donc le jumeau, c'est impressionnant de voir effectivement ce bâtiment, enfin c'est ce monument absolument impressionnant là qui défie le ciel comme ça et qui est d'une conservation incroyable. C'est le plus vieux monument de Paris quand même. Hein.
Qu'est-ce que vous ressentez, Jean-Guillaume, quand vous allez en Égypte justement et que vous visitez Karnak, Louxor?
Je viens de rentrer d'Égypte hier soir, donc je suis un peu la tête dans le pâté. Mais j'adore.
Ça ne me dit pas ce que vous ressentez.
C'est juste fascinant. On a l'impression d'être. Ça dépend des lieux, mais il y a des temples absolument fascinants. Ce champ mais vraiment empli d'une histoire fascinante. On essaie de comprendre des milliers d'années de civilisation et ça laisse pas indifférent.
Est-ce qu'il reste encore des secrets à découvrir ?
Ouais, 80%.
C'est ce que je disais. Hein.
Il 80. Reste 80% à découvrir, comme disait Bruno justement.
Qu'est-ce qu'on en sait qu'il reste 80% ?
Ben, on a des textes, il suffit de lire.
De savoir lire, surtout.
C'est pas lire les hiéroglyphes.
C'est mon quotidien. Hein, donc.
Ah, super.
Non, mais qu'est-ce qui dit que ce n'est pas détruit, tout simplement, et que c'est pas tombé en poussière ou
Ce qui se passe, c'est que si c'était le cas, on ferait plus de fouilles archéologiques en Égypte. Mais
là, ça fait un siècle qu'on a découvert.
Il y a plein de choses qu'on a découvertes depuis même 200, 300 ans. Hein. Donc, parce que même avant la campagne d'Égypte, il y avait des recherches qui étaient menées.
Au XVIe siècle.
Ouais. Non, je dis, depuis que le Toutankhamon a été découvert en 1922, qu'est-ce qu'il y a eu comme découverte ?
Il y a eu le trésor de Tanis, avec par Pierre Monté, un trésor somptueux découvert dans la ville de Tanis. C'est là où Indiana Jones trouve l'Arche d'Alliance.
Et là, dans ce cas-là...
Voilà, ça me parle.
Pour les découvertes actuelles, est-ce que là, ça devient la propriété de l'Égypte ou pas ?
Oui, depuis la loi de l'UNESCO, tout reste en Égypte. Il n'y a aucune chose antique sans l'accord de l'Égypte pour les expositions. Tout reste en Égypte. Le partage de fouilles n'existe plus.
Vous avez envie, vous, de découvrir quelque chose ?
Ben, j'ai découvert quelque chose de dingue, déjà. Moi. J'ai découvert les cryptotextes de l'obélisque de la Concorde. Et donc, ce qui permet maintenant de relire tous les monuments pharaoniques, tous les textes pharaoniques avec un nouveau système de langage.
Alors, racontez-nous. Wow. Racontez-nous.
Voilà. Une nouvelle pierre de Rosette, c'est trop bien.
Non, mais racontez, comment et où ?
Ben, en fait, pendant le Covid, j'ai découvert que j'habitais à côté de l'obélisque et j'ai découvert que...
Vous avez découvert vous habitez à côté de l'obélisque ou vous avez découvert...
Le mec, il était logé au crayon. Il était logé au crayon.
J'étais dans un logement de 12 mètres carrés pendant les confinements. Du coup, on avait une heure, un kilomètre, je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, moi, l'obélisque de la Concorde était là, j'en avais rien à faire. C'est Ramsès II, ça m'intéresse pas, je préfère être le plus ancien. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses un peu bizarres. Et comme j'avais déjà travaillé sur les cryptographies hiéroglyphiques avec ma thèse, sur les dieux égyptiens, puisqu'en fait, les dieux égyptiens sont juste des logos d'entreprise, hein, pour ceux qui savent lire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des textes propagandes destinés à la très haute élite intellectuelle. Et justement, là, il y a une cryptographie hiéroglyphique, c'est un bijou lié à Toutankhamon, parce qu'en fait, les Égyptiens adorent utiliser le langage des dieux, la cryptographie hiéroglyphique.
Et qu'est-ce que l'on retient aujourd'hui dans notre culture ? Qu'est-ce que les Égyptiens, ou cette Égypte antique, en tout cas, ont apporté aujourd'hui ?
On a plein de reliquats de l'Égypte pharaonique, on a même des mots pharaonique, hein, qu'on utilise au quotidien.
Comme quoi ? Comme
En fait, il y en a un qu'on utilise depuis le collège, pour ceux qui le savent.
Wesh.
La chimie. La chimie, en fait, vient du mot Kemet, qui désigne les rives noires du Nil, une désignation de l'Égypte. Kemet, en égyptien ancien, qui désigne l'Égypte au moment de la crue du Nil, avec la boue noire par-dessus.
Avec le noir et le rouge, c'est ce que j'ai appris aussi dans les aventuriers
de l'Égypte. Exactement.
Antique, c'est les deux couleurs qui signifiaient l'intérieur et le bord du Nil.
Tout à fait.
Et
le mot déchelette a donné désert en français. On a d'autres termes pharaoniques qu'on utilise au quotidien, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis surtout, ils ont fait plein de trucs, notamment le maquillage, le col.
Oui, le col.
Et aussi le marketing olfactif.
Merci Jean-Guillaume d'être venu.
Avec grand plaisir.
Jean-Guillaume Olette-Pelletier, signe la mythologie égyptienne aux éditions Merci les livres. Voici Emma Beaujean.
Alors, tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à la fête. Mais cette fois, pas n'importe quelle fête, car, chers auditeurs, sachez que demain soir aura lieu, comme une fois par an, la fête de Nagui. Alors, la fête de Nagui, c'est une fête organisée par Nagui. C'est pas la Saint-Nagui. Commencez pas à chercher la Saint-Nagui sur un calendrier, puisque personne ne porte ce prénom, à part lui. Le paradoxe de ce prénom, d'ailleurs, Nagui, je sais pas si vous savez ce que ça signifie. Nagui, en arabe, ça veut dire celui qui échappe au danger. Bah, super, il échappe au danger, mais il n'échappe pas au fait que c'est le seul de l'école qui s'appelle comme ça. Alors, tout ça pour dire que le boss organise la fête de fin d'année. Ben voilà, c'est la fête de fin d'année. C'est pour ça qu'on le fait en fin d'année, pour des raisons fiscales, évidemment. Moi, j'appréhende un petit peu la fête, je ne vous demande pas. J'ai trop de questions. Est-ce qu'il y aura de l'ambiance ? Est-ce qu'il y aura d'autres célébrités ? Moi, à la base, je fais des chroniques. Hein. Je ne vais pas signer pour prendre des tech-paf avec Michel Simès. Et j'appréhende un petit peu le moment où Daniel aura plié sa quille de rouge et va devenir Danito, chapeau à Van Acker, chemise blanche en limbre, les fluos, mojito, clin d'œil de José, petit sous-entendu du style, et tu dis pas à maman que j'ai fumé, hein, et tu dis pas à maman que je suis entré en scooter, hein, et tu dis pas pour la cellule de dégrisement, hein. Est-ce qu'il va draguer des meufs, et ça fait longtemps que vous venez ici, la maison de la radio, oui, 35 ans, enchanté, Daniel Morin, gros kiffeur, va. La musique, je me demande, ça va être quoi, il y aura un DJ, ou est-ce que c'est Old Love qui va faire des morceaux à la gratte, t'imagines toute la soirée, à chaque fois que quelqu'un va le voir, et mec, tu peux faire la chanson des Red Hot, ouais, bien sûr, je suis fan des Red Hot.
Red Hot Chili Peppers. Les stagiaires m'ont vendu du Poppers. Alors, surtout, moi, ma plus grande hâte, c'est de picoler avec les sœurs de Cendrillon, là. Julie Conti, Amandine Lourdel, Mélodie Fontaine. Oh là là, je peux vous dire que le bol de sangria va falloir qu'ils jouent serré en défense. Hein. La règle, c'est que où qu'elles soient dans la pièce, toutes les trois, elles font un triangle. Et si tu passes dedans, shot ! C'est comme ça. Et attention, en plus, si vous criez shot, il faut surtout pas que Leïla Kadour vous entende. Parce que elle, c'est la pire. Chapeau de cow-boy rose à paillettes. Quatrième jet 27 en 15 minutes. Et elle continue à t'expliquer l'origine historique du shooter. Et ben, c'est parce qu'en fait, dans les saloons, à l'origine, il fallait faire vite le temps que tu laisses ton cheval pas trop seul, quoi. Voilà. D'accord, ma belle. Gravdak, mettez un petit peu de vomi sur le chemisier. J'espère qu'on va faire des dingueries. En tout cas, moi, sachez que j'ai posé ma journée du lendemain. J'ai fait tous mes rappels de vaccins et j'ai dit à mon mec de me bloquer pendant 24 heures. Sachez que la semaine dernière, je suis allée faire un tour dans mon ancien job et je discutais avec mes anciens collègues justement des fêtes de fin d'année d'entreprise. C'était un moment où on faisait tous semblant d'aimer être là, même si c'était un peu plus vrai que le restant de l'année, puisque là, on avait pour une fois le droit de s'habiller comme on voulait et surtout, on avait de l'alcool gratuit. C'était vraiment les deux seules raisons. Mais ce sont deux contre-arguments, puisque ce sont ces mêmes robes que portaient mes collègues qui apparemment aguichaient les hommes de cette entreprise. Et c'est surtout ce même alcool gratuit qui donnait aux hommes le lâche courage de le faire. Donc finalement, cette soirée était le pire jour de l'année. Alors entre mille autres choses géniales à la soirée du NAGS, les gens savent se comporter. Et c'est si triste d'être heureuse d'avoir la garantie d'aller à au moins une soirée sans encombre en cette fin d'année. Alors c'est plutôt à cette triste statistique que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Sur scène, Léna Beaujean, le 9 janvier, elle sera à Clermont-Ferrand et à Chambéry, ce sera le 23 janvier.
Tanguy Passureau, de quoi vas-tu parler ?
Des marchés de Noël, sont-ils nazis ou pas ?
Oui, on parle la prochaine demi-heure. Bruno Solo est notre invité. Jusqu'à midi et demi, nous évoquons les aventuriers de l'Égypte antique qui passent ce soir sur France 5. La bande originale avec Leïla Kadour-Boudabi, avec Julie Conti, Mélodie Fontaine, Emma Beaujean, Tanguy Pastureau, Oldelaf, Daniel Morin.
Oui, c'est ça.
Et notre invité Bruno Solo.
France Inter, la bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Ce soir sur France 5, à partir de 21h05, les aventuriers de l'Égypte.
Qui rentre dans son salon.
Antique. Et une réussite de jeu, d'interprétation, d'enquête, aussi de reconstitution et d'utilisation de l'intelligence artificielle qui, et on le comprend, peut inquiéter pour tout ce qu'elle va décider ou réfléchir pour les fainéants finalement. Pour ceux qui n'ont pas envie de réfléchir, ça peut être un danger, mais pour ceux qui vont s'en servir à bon escient, comme c'est le cas dans cette série, ça va être formidable de revoir les couleurs originales, par exemple, du Sphinx, voir les hiéroglyphes s'animer, de comprendre aussi, avec des projections, les dimensions qui pouvaient être occupées, la reconstitution des villes aussi, et de la vie possible autour du Nil. Ce soir, il y a l'expédition Bonaparte, parce que c'est le point de départ. Napoléon, ne voulant pas envahir ou attaquer les Anglais, se dit, je vais être plus malin, je vais faire croire qu'il y a un énorme coup commercial à réussir en allant m'occuper du Nil. Et c'est de là que tout a commencé. Et puis il y aura cette chasse au trésor de la pierre de Rosette.
Il va partir au bout d'un an et demi, il va laisser Dominique Vivant-Denon, le tout premier homme qu'on peut considérer comme le tout premier égyptologue. Effectivement, il va le laisser là-bas.
Et c'est les troupes de Bonaparte qui découvrent la pierre de Rosette.
Oui, bien d'abord. Sûr. C'est les troupes de Bonaparte dans la ville de Rosette qui la découvrent. Et puis, voilà, et elle est confisquée par les Anglais parce qu'à ce moment-là, Napoléon est parti pour s'occuper du consulat et puis devenir l'empereur tyran qu'on connaîtra plus tard. Ça, c'est mon avis, en tout cas. Et voilà. Et donc là, on se fait confisquer la pierre de Rosette qui est découverte par un petit lieutenant mais qui en déduit tout de suite qu'elle est sans aucun doute essentielle. Parce qu'il y a trois textes. Un en égyptien, évidemment, et deux en grec, et en égyptien domique, je ne me souviens plus.
Oui, qui est une sorte d'arabe moderne.
Voilà,
ouais,
l'arabe moderne, des hiéroglyphes, et il en déduit assez vite qu'il y a une possibilité de traduire ce texte, et chose que fera quelques années plus tard.
Sauf que ça va mettre du temps.
Ah oui, ça va mettre du temps.
Des années avant de découvrir le lien direct entre...
C'est une lutte entre les Anglais et les Français, ça s'est joué à rien. Thomas Young a failli les découvrir avant Champollion.
Vous expliquez d'ailleurs dans la série que, en fait, les hiéroglyphes, par moment, pouvaient exprimer des lettres, pouvaient exprimer des mots, mais également des sons, voire des idées.
Bien sûr. Et bien, un peu comme l'écriture chinoise. Oui. Effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du symbolique parfois, et un même signe ne veut pas dire nécessairement la même chose en fonction de là où il est placé dans la ligne hiéroglyphique.
Dans tous les trésors, il y a le buste colossal du jeune même nom,
ouais.
Qui là aussi, c'est une guerre entre les Français et les Anglais pour savoir qui va être capable
les
de
Anglais
l'emporter.
Qui vont l'emporter, et puis finalement on va le récupérer au dernier moment.
Ouais, et puis il y a le colosse aussi allongé qui lui n'a jamais pu être emporté et qui est resté sur place.
Trop lourd.
Tellement il était lourd, c'est
ouais,
ça.
Ouais, trop lourd.
Ils ont tout essayé. Il y a des bateaux qui ont coulé avec des trésors.
Ah oui, des bateaux qui étaient incapables, qui avaient un tirant d'eau beaucoup trop faible, qui sont enfoncés dans le Nil, qui n'ont jamais traversé même la Méditerranée. Mais tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Effectivement, peut-être que les Égyptiens y avaient pensé. Ils se sont dit, on va faire des choses tellement intransportables que ça restera à la maison. Quoi.
Et un mélange donc de reconstitution par la fiction avec des acteurs qui interprètent les différents personnages et différents rôles. Reconstitution par l'intelligence artificielle et puis par la narration de Bruno Solo. C'est absolument passionnant parce que c'est encore une fois le côté humain qui est développé. On en profite quand même pour apprendre beaucoup de choses sur l'Égypte et redécouvrir l'histoire de l'Égypte antique, mais surtout de voir ouais. comment certains ont sacrifié ouais, leur vie,
leur passion, la fièvre qui les animait, le mépris du danger, et puis surtout, c'est les pionniers. Ils partent à la découverte, ils savent pas sur quoi ils vont tomber, donc ils sont émerveillés, submergés par des émotions nouvelles, et effectivement c'est beau de voir cette passion, même si certains étaient quand même parfois des brutes épaisses, se sont mal comportés vis-à-vis des Égyptiens, pardon, mais des Égyptiens, c'est pas facile à dire, et vis-à-vis aussi des trésors qu'ils pouvaient découvrir, des temples, des lieux de culte, mais en tout cas on sent chez eux une fièvre, une envie de découvrir et une passion qui est dévorante et qui va même pour certains les abattre.
Sur combien de sites vous êtes rendu pour filmer tout ça?
Alors je suis allé à Gizeh, je suis allé à Karnak, à Louxor, dans la vallée des Rois, dans la vallée des Reines. Je suis allé aussi au Ramesséum et l'année prochaine, si Ra le veut, si Horus le veut, eh bien j'irai.
Et si France Télévisions le veut.
Ouais, mais j'ai un peu vu qu'il y ait Horus, c'est plus facile. Il me semble. Et eh bien j'irai à Abou Simbel, quoi, qui est mon rêve un petit peu.
Voilà. Tout ça
et commence. Puis je me suis baladé sur le Nil.
Tout ça commence ce soir, oui, avec ces couleurs, cette ambiance magique, indescriptible, mais que vous pourrez revivre à partir de ce soir sur France 5, Les Aventuriers de l'Égypte antique. Voici Tanguy Pastureau.
Je sais que vous me voyez comme quelqu'un de sombre, tout ça parce que j'écoute de la Cold Wave en pleurant, roulé en boule dans le cimetière du Père Lachaise, à côté de la tombe d'Alan Kardec, le fondateur du spiritisme. Vous savez, c'est ce monsieur qui est le premier en 1855 à faire tourner des tables. S'il avait vécu du temps de Patrick Sébastien qui fait tourner des serviettes, à eux deux, ils auraient pu faire tourner toute la salle à manger. Alors oui, j'aime les cures. Oui, j'aime la noirceur. J'ai une housse de coussin à l'effigie de Mathilde Panot. Oui, je suis à l'aise avec le fait que Belzébuth a pris le contrôle d'Oldelaf dans l'unique but de détruire le showbiz en incluant leur nom de famille au sein d'un calembour atroce. On se souvient de son Virginie Efiramoin la Maline qui lui avait valu un entretien avec la direction. Ok, j'ai l'âme noire. J'aime bien Mélodie, mais si ça avait été ma fille, je l'aurais appelée Chant funèbre. Et en même temps, vous voyez les marchés de Noël ? J'adore. J'aime la joie enfantine de ces petits chalets mal décorés, peuplés d'artisans précaires. On dirait des schtroumpfs qui se seraient fait dépigmenter la tête. Dans le marché de Noël, tout est stratégique. Le premier chalet, celui de l'entrée, vend du vin chaud que Frédéric, 45 ans, qui porte des bois de Rennes en serre-tête, renonçant ainsi à sa dignité, charge en alcool. Ce qui fait que, ivre, les clients ensuite achètent n'importe quoi. Des saucissons au paprika, des pierres montées en collier. Chaque pierre ayant soi-disant une propriété. Vous offrez de l'ambre à votre mari parce que l'étiquette indique et concentration et mémoire, en vous disant ça va l'aider à se souvenir que notre anniversaire de mariage c'est le 12, il est là devant le foot avec une 8-6 et vous pleurez en disant l'ambre c'est nul, parce que c'est une arnaque, spoiler, les pierres n'ont pas de propriété, exemple c'est véridique, j'ai vérifié, le granit est censé empêcher la perte des cheveux. J'ai passé la moitié de ma vie en Bretagne. Regardez-moi. Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Se frotter le crâne sur la maison du voisin? Arrêtez avec ça. Une pierre est une pierre. Dans le village de Noël, il y a toujours un vendeur de churros. Comme l'été d'ailleurs. Les churros, c'est le seul business à fonctionner toute l'année. Je sais même pas pourquoi Xavier Bertrand se présente à la présidentielle 2027 alors qu'il pourrait vendre des churros. Autre chalet star. Celui des vestes chauffantes. Vous achetez ça parce que vous êtes sur le marché de Noël qui fait froid. Après, il faut savoir que ça ne sert plus jamais. Vous arrivez au travail avec, il y a
la dame de l'accueil qui appelle la DRH pour dire « Ce porc, à peine il m'a vu, il s'est mis à suer. Et le vigile vous écrase la tête sous sa Ranger avant que vous ayez pu dire « Mais c'est pas elle, elle a 59 ans, elle s'appelle Christine. C'est à cause de ma veste ?» Ah, les bougies parfumées. Attention, ça sent bon parce qu'on est à l'extérieur. Une fois allumé chez vous, vous réalisez que le parfum flamencuche n'était séduisant que sur le papier. Et puis le dernier truc qu'il y a toujours, ils sont fatigants, c'est le chalet péruvien là, avec des écharpes qui pullent la main en fin de vie. Mais on vous dit, c'est un petit producteur qui fait ça, c'est Pelorio Pedro. Si vous n'achetez pas, il va être obligé de se lancer dans la drogue. La DZ Mafia va le taper, alors vous achetez comme un con. Bref, je fais part de trop de cynisme hein, dans cette chronique quant au marché Noël et je souille l'esprit des fêtes de fin d'année. Mais en réalité, bah, j'aime cette ambiance. Le Père Noël qui parle aux enfants, les beignets, Last Christmas de Wham dans les enceintes, c'est mignon. On oublie nos soucis. Et puis, vous avez sûrement suivi la polémique de l'article de France Info disant qu'il y avait un lien entre les nazis et les marchés de Noël. Ils ont même été obligés de retirer l'article parce que tout le monde leur est tombé dessus. Moi, j'étais énervé également parce que les nazis n'étaient pas de belles personnes. Alors, savoir qu'eux aussi achetaient des chaussettes avec des lutins, ça paraît bizarre. Des lutins blonds, blancs, musclés, qui regardent le soleil levant en se disant avec Hildegarde, on va foutre dehors les lutins juifs. D'après ce que j'ai lu, et Bruno Solo, spécialiste de l'histoire, validera ce que je dis, puis dans un deuxième temps, il validera l'ensemble de ma carrière. Les marchés de Noël nés au XIIIe siècle ont été en fait relancés sous le Troisième Reich pour écouler des produits allemands. Ça ne veut pas dire qu'actuellement, ils sont nazis. Je n'ai pas vu le moindre bretzel en forme de croix gammée. Mais ça a mis hors d'eux des tas d'internautes qui ont dit qu'on insultait la religion chrétienne. Ségolène Royal, la célèbre star qui fête ses 20 ans de présence à France Travail, a même parlé d'une méchanceté des obsessions anti-Noël. C'est méchant, méchant. Elle a la rhétorique d'un CP qui n'a pas de langue. Bref, dans les faits, personne ne conteste l'idée que les nazis ont relancé les marchés de Noël. Et je ne comprends même pas que ça pose problème. Qui pense que dire ça revient à dire qu'aujourd'hui, les marchés de Noël sont nazis? Parce que si vous pensez ça, rouler en BMW sapé en Hugo Boss, soit la vie d'un dealer de base, c'est presque prêter allégeance à Adolf Hitler. Les marchés de Noël sont donc dénazifiés. C'est pareil que la fête des mères. Vous savez, il y a toujours quelqu'un pour dire que c'est un truc du maréchal Pétain. En général, c'est celui qui n'a pas envie de faire un cadeau à sa mère qui dit ça. Hein. Le même qui dira « Oui, la Saint-Valentin, c'est commercial. Ça, c'est quand à 21h, t'as oublié d'acheter un bouquet et que mon souffleur est fermé. » En réalité, la fête des mères existait 25 ans avant la guerre et Pétain l'a relancée, là aussi, en lui donnant une dimension travail, famille, patrie. Vous savez, c'était son truc. Donc, bonne nouvelle. Les nazis, les collabos sont tous morts. S'il en reste un, il a 104 ans. Et jamais ils ne reviennent dans la mémoire de quiconque se balade sur un marché de Noël. On retiendra d'eux, pardon, cette abomination, cette extermination de masse, et pas qu'en 39 ou en 41, ils ont fait vendre à quatre pleu-pleu des boules de Noël avec l'eau de taré à moustache épilée à la brésilienne, peint dessus. Donc, profitons de ce vin chaud, de ces sculptures en fer réalisées en canettes de soda représentant l'âne ou le bœuf, du fait d'entendre Wham dans la rue, Last Christmas, I gave you my heart, c'est tellement chouette, quoi. Hein? Non, George Michael, en plus, était si bien coiffé, il avait dû se frotter 3 ans à du granit pour avoir de telles follicules.
Lui.
Les méchants ne gagnent jamais, Madame Royale, surtout à Noël, parce qu'à Noël, il y a de la magie dans l'air.
Merci. Tanguy Pastureau, puis on va rester vigilant parce qu'il reste quand même 2-3 nazis et collabos en oui. vie.
À Lille, le 11 février au théâtre de Sébastopol, vous retrouverez Tanguy Pastureau.
Retour sur ces aventuriers de l'Égypte antique, il y a 6 épisodes, 2 passent ce soir, l'intégralité sur France.tv, peut-être, espérons en tout cas, une suite à venir puisque ces aventuriers continuent de vouloir décrypter, comprendre l'Égypte antique avec passion et on l'a entendu tout à l'heure avec notre invité et spécialiste, il y a encore 80% de choses à découvrir.
Ça va être, je vous disais, ça va être
totalement dingue. Il y a 10 saisons à faire avec les aventuriers.
C'est exactement ce que je vais essayer de vendre à France Télévisions.
D'autres événements oui. culturels, Leïla.
On cherche un monument parisien inauguré au XVIIe siècle par Henri IV. Et c'est peu dire que ce monument inspire particulièrement les artistes. Je vous donne un indice peut-être.
Le Louvre.
Déjà, il inspire les artistes. C'est un indice de taille. La première fois, c'était en 85 et bientôt, ça sera l'année prochaine.
Ah, le pont Neuf.
Absolument, bravo. C'est le pont Neuf.
Bravo, là, là.
Qui est le premier.
Le plus vieux pont de Paris.
On dirait que tu l'as dit quand t'étais aux toilettes.
Le pont neuf.
Voilà, c'est
cette
ça.
Sorte de rideau.
Ce pont neuf qui avait été empaqueté par Christo et Jeanne-Claude en 85. Et bientôt, en juin prochain, c'est le plasticien photographe J.R. qui va l'habiller, qui va en faire un personnage, un paysage rocheux. Comme ça, une sorte... j'ai vu des visualisations, ça a l'air complètement fou. Il l'avait fait, il n'y a pas très très longtemps, avec l'Opéra de Paris, avec cette sorte de grotte comme ça.
C'est
génial. Vous apercevez au loin. Ouais,
c'était en mouvement.
C'est très troublant. Ouais. C'est très troublant.
Le Pont Neuf. Américain Christo,
ouais. Ouais. Ouais le Pont Neuf qui aussi figurait dans le film de Léos Carax, Les Amants du Pont Neuf, avec Denis Lavant, Juliette Binoche. C'était un tournage particulièrement maudit, avec du retard, des blessures, un budget qui n'en finit pas, une reconstitution du Pont Neuf à côté de Montpellier. Enfin, il y a aussi, il est associé à chaque fois à quelque chose d'assez culturel. C'est un. Y a-t-il un monument, Bruno ? On a parlé tout à l'heure, on sait très bien votre amour pour la pierre, pour l'histoire. À Paris, un monument qui vous est particulièrement cher ?
Le Centre Georges Pompidou.
C'est vrai, pourquoi ?
Parce que j'ai grandi en face du Centre Georges Pompidou, je l'ai vu se construire, j'ai vu ce qu'il y avait avant le Centre Georges Pompidou, c'était une sorte de parking où il y avait des brocanteurs, voire même des chiffonniers à l'époque.
Vous avez vu les polémiques ?
J'ai vu les polémiques, j'ai vu naître cela, et puis en 77, je suis rentré, le 2 février 1977, j'ai 12 ans, et je rentre là avec mon papa, et je découvre l'art contemporain au travers de Marcel Duchamp, je découvre aussi toute une culture, pas élitiste, une culture offerte à tout le monde. Et le Centre Georges Pompidou est constitutif de ce que je suis. Je suis né au théâtre grâce au Centre Georges Pompidou parce qu'il y avait du théâtre de rue. Oui. Je suis né à la littérature, à la poésie, à la culture en général et ma curiosité.
Triste,
oui, je suis triste qu'il soit fermé pendant 5 ans, mais je sais que c'est pour de bonnes raisons. Bon, je crois que ceux qui le reconstruisent sont plus ou moins des fonds qataris, mais bon, ça, j'y peux rien, moi. Mais en tout cas, le fait est que lorsque le Centre Georges Pompidou est né, en face de chez moi, j'habitais rue Saint-Martin, ça a changé complètement mon existence. Et c'est vrai que mes parents étaient heureux de savoir que lorsque je séchais les cours, c'était pour traîner oui. à la bibliothèque, à la ludothèque, voilà, du Centre Georges Pompidou. Voilà.
Ah, c'est joli.
C'est mon endroit.
Autre question, on cherche un humoriste qui a été un temps écarté de l'antenne.
Il y en a sont nombreux.
Oui. Pourquoi ? Parce qu'il a critiqué ouvertement une décision, enfin une décision.
Ah, l'Américain là qui reprend son programme. De...
Absolument, ouais, absolument. C'est un Américain.
Ah oui,
celui qui s'est fait virer par Jimmy Trump.
Kimmel. Absolument, Jimmy Kimmel. Bravo, ouais. Jimmy Kimmel.
Il a été réintégré, non ?
Il a été réintégré au bout d'une semaine. Il avait été écarté. Pourquoi ? Parce qu'il avait accusé la droite américaine d'exploiter l'assassinat de Charlie Kirk, l'influenceur pro-Trump. Ça avait déclenché un tollé, il y avait une mobilisation quand même assez importante, bilan, la
chaîne... Un boycott de Disney même.
Voilà, la chaîne qui appartient à Disney, s'est dit, oh, on va vite le remettre à l'antenne parce que ça commence à devenir compliqué, l'animateur a repris ses fonctions, il est même prolongé d'une année
Ils ont perdu 400 millions de dollars en 48 heures appel au boycott, comme quoi
on peut être acteur aussi en étant...
L'arme de l'argent sert aussi quelques démocraties.
Aux États-Unis en tout cas, c'est pas forcément le cas partout d'ailleurs. En tout cas, il continue de s'en prendre à Trump assez ouvertement.
Drôle.
Peut-être, je ne sais pas s'il s'y prend de la même manière. On ne sait jamais ça. Si le risque d'être écarté fait que tout d'un coup,
je pense qu'il est
on se tempère.
Protégé maintenant, non peut-être plus oser.
Sans doute. Voilà. Sans doute. Mais est-ce que pour autant, est-ce qu'il s'auto-censure pas un tout petit peu ? Ça, il faudra voir sur les prochaines chroniques. Qui vous fait rire là, politiquement aujourd'hui ?
Leïla, quand tu vois ce qu'il fait là, il s'auto-censure pas du tout. Il y a même beaucoup plus loin que ce qu'il faisait avant.
Moi, je vais trouver une pirouette parce que politiquement, je vois pas tellement, mais comme l'humour, le vrai humour, effectivement, il est toujours politique. Il y a plein de gens qui me font rire. Il y en a plein ici autour de cette table, vous le savez. Et puis, il y en a un que j'aime tout particulièrement, qui est un ancien de chez vous. Je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour ce mec. C'est Guillermo Guiz. Guillermo Guiz me fait extraordinairement rire. Non, pas politique, mais enfin si, au travers de certaines de ses chroniques, il pouvait faire de l'humour politique. Mais bon, Morin, il est fort en humour politique aussi. Mais autrement, il y en a moins maintenant qui se lancent dans l'humour purement politique comme le faisait
Bedos
ou dans une moindre mesure, enfin dans une autre mesure, Thierry Leluron par exemple. Voilà.
Mais Guiz, je suis d'accord, il a un côté politique, mais aussi très poétique. Il fait un pas de côté, c'est délicieux.
Et on l'embrasse.
Guillermo Guiz.
C'est lui qui était qui s'est mis.
Et il s'est échappé en quelle année ?
Il s'est échappé pour pouvoir écrire et mieux revenir, j'espère en tout cas. Et on l'embrasse. Dans les projets que vous avez évoqué des aventuriers de l'Égypte antique avec l'idée et l'envie de faire plusieurs saisons. Ça c'est clairement.
Ça fait 9 ans que je suis sur France 5. Avant c'était la Guerre des Trônes et on a remonté le temps et on s'est rendu compte qu'une 9e année. En faisant la restauration, la monarchie de juillet, c'était sûrement passionnant, mais ça commençait à devenir un peu un truc d'exercice. exégètes, quoi. Vraiment des passionnés d'histoire. Donc c'est là qu'on a eu l'idée, avec France 5 et Samuel Kissous, le producteur, Pernel Productions, de s'arrêter à la campagne d'Égypte qu'on avait évoquée l'année dernière au travers des 6 épisodes sur Napoléon. Et on s'est dit, tiens, et si on revenait là-dessus? Et ça a plu à France 5. Et donc voilà, c'est pour ça que, c'est comme ça que les aventuriers de l'Égypte antique sont nés. C'est pour me préserver et pour m'éviter de ne plus être sur France 5 pendant quelques années.
L'avenir de Caméra Café, est-ce que oui ou non, il y a un film qui revient?
Oui, un film qu'on a tourné pour la télé à Liège et qui sera diffusé. Alors là, c'est quand M6 le décidera, j'en ai aucune idée, mais on a terminé le montage image.
Donc c'est pas au cinéma, c'est uniquement sur
M6. Oui, c'est pour la télévision, comme on l'avait fait il y a 3 ans avec les spéciales 20 ans, et ça s'appelle T'en veux encore.
Et c'est la retraite qui vous gâte?
C'est sûr, oui.
C'est ça?
Bah, c'est-à-dire que Jean-Claude et Hervé...
Vous n'avez pas assez cotisé pour pouvoir
prendre... Jean-Claude et Hervé, enfin, ont mal cotisé ou pas assez, ont été trop escrocs. Et puis voilà, il nous manque 12 trimestres, il va falloir qu'on travaille pendant 3 ans. Et là, évidemment, comme non seulement c'est des incapables, mais en plus des escrocs, les différents boulots qu'ils vont faire vont tous se terminer très très mal pour pouvoir enfin obtenir nos trimestres.
C'est une écriture que vous dirigez, là, encore?
Oui, toujours. Bah, c'est-à-dire qu'on travaille avec nos auteurs fétiches, en l'occurrence Jérôme et Alexandre Perguis et Fred Le Bolloc. Et puis évidemment, moi je supervise avec Yvan et le réalisateur, parce que j'ai pris cette année, d'habitude c'est moi qui réalise, là j'ai pris Raphaël Langlais pour
réaliser.
Mais
vous étiez pris sur un autre projet, c'est ça ?
J'étais sur un autre projet, donc je pouvais pas faire la prépa, et donc c'est lui qui m'a proposé de réaliser cela, et il a fait un super travail. Raphaël Langlais, c'est un comédien et qui a été aussi auteur dans Caméra Café et qui réalise notamment des séries pour France Télévisions, et je pensais qu'il avait l'œil pour cela. Ouais.
C'est qu'il Chef revient, vous avez tourné.
Parce que si c'est une question, je
vous étiez prêt à répondre là. Alors.
C'est vous, non,
vous avez tourné avec Michel Simès une nouvelle série, c'est ça?
Oui, j'ai été obligé.
Ouais.
Pourquoi il a des photos qu'on prend les temps?
Voilà, Michel avait des dossiers sur moi, et comme lui, le secret médical, ça n'existe pas. Il m'a dit, je balance tout, et donc viens avec moi. Non, c'est un plaisir, c'est un vieux pote. Il m'a demandé de venir, enfin, il m'a demandé, c'est pas nécessairement lui qui m'a demandé, mais la réalisatrice, Aude Gonigoubert, qui nous a demandé de. Je joue son frère. Voilà, je joue le frère de Michel, qui joue un cuisinier arrogant, odieux, qui se fait virer de la télévision et qui va essayer de revenir, voilà, grâce à une jeune influenceuse qui est jouée par Alice Baudécourt, qui est une formidable comédienne. J'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, moi je fais le boulot. Michel est très bien, il est investi complètement, il a travaillé comme un chien, il était très angoissé à l'idée de le faire, il est humble par rapport à ce nouveau métier qu'il apprend, et moi je trouve ça formidable. Moi je fais le boulot, mais alors cette gamine, oui, parce que bon, j'ai 60 piges maintenant, j'ai l'impression que je suis entouré que de gamins. Maintenant quand je suis sur un tournage, je suis le plus vieux, je demande, j'essaye de chercher le plus vieux que moi, et on me dit non, je crois que c'est toi.
Si vous avez trouvé avec Michel Simès quand même.
Avec Michel Simès,
voilà, oui, c'est ça.
Lui, c'est le doyen des comédiens français quasiment,
c'est ça.
C'est incroyable.
C'est le plus jeune professionnel.
C'était un vrai plaisir de tourner ça à Lille, en plus, j'adore.
Michel est au théâtre en ce moment. Quand est-ce que vous allez retrouver les planches, vous?
Alors, a priori, ce sera au mois de septembre, dans une pièce terrible.
Terrible dans quel sens?
Ben, un petit peu dans la veine de ce que je fais depuis quelque temps, des pièces qui essayent de rentrer en cohérence avec mes engagements. Voilà, et là, c'est une pièce autour d'un couple qui va découvrir que leur fils a fait une bêtise, et que cette bêtise, c'est un viol collectif qu'il a filmé, mis sur les réseaux, et il se pose la question de savoir à partir de quel moment ils n'ont pas vu, pas deviné. J'avais fait un texte...
Déjà, ça l'a déjà joué, c'est ça, celui d'un père...
De deux pères qui discutent de leur fils criminel, et c'est des sujets évidemment qui me traversent au travers de mes engagements, notamment sur les violences faites aux femmes, avec l'ONU Femmes France.
Et la protection de l'enfance.
Et la protection de l'enfance, et j'essaye d'être en cohérence, même si j'ai toujours envie de faire de la comédie, mais je pense que c'est l'occasion pour moi de rentrer, d'être cohérent par rapport à mes engagements, et au théâtre en plus c'est une formidable chambre d'écho, je trouve.
Daniel Morin, des excuses à présenter.
Absolument. Désolé pour Bruno Solon, notre invité, qui a eu, on peut le dire, des coups de génie comme Le Top, Plein de Super, Caméra Café. Elle écoute moins bien, comme Mélodie Fontaine, la femme derrière le rideau, qui nous a refourgué. Vous paierez ça un jour, Bruno. Désolé pour tous les archéologues qui nous écoutent et qui ont découvert les outils utilisés par Bruno Solon pour sa série documentaire, à savoir sa bite et son couteau. Alors, pour tailler des pierres, petit conseil, faites quand même gaffe. Il faut avoir ce qu'on appelle le geste sûr. Désolé pour les aventuriers qui nous écoutent et qui ont découvert la terrible malédiction qui a frappé tous ceux qui ont exploré l'Égypte antique. À savoir, je cite le professeur archéologue Solo, Chiant spray après avoir bu l'eau du Nil. Ah. Je veux dire un truc, j'ai hâte de voir la reconstitution ce soir sur France 5.
Daniel Morin qui sera le 15 février à Strasbourg en spectacle.
Oui, merci au marché de Noël peut-être.
Oui, absolument.
Merci
Petit
Bruno.
Jésus, c'est moi.
Merci Bruno Solo.
Merci les amis.
Et il y a, c'est vrai qu'en ce moment il y a circule sur les réseaux sociaux une pétition à signer parce que nous les hommes aussi on doit s'engager pour protéger.
C'est-à-dire que les femmes elles savent exactement où elles en sont. C'est aux hommes sans aucun doute de trouver les solutions. 90% des agressions, plus de 90% des agressions faites sur les femmes. C'est alors effectivement comme le dit Julia Foyce, pas tous les hommes, mais à chaque fois un homme.
Merci Bruno Solo. Demain, c'est Hor Attica qui sera notre invité. Passez une belle journée sur Inter.